journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, au moins les prévenir, avertir les femmes quand leur ex-conjoint violent sort de prison. Obligation de la justice à partir d'aujourd'hui pour un minimum de protection, témoignage dans un instant. Se passer des EHPAD privés avec le scandale Orpea, on s'intéresse à ce département qui refuse que la vieillesse devienne une marchandise. Les Landes ont fait le choix du tout public et ça marche. Oyez, oyez, électeurs de gauche, les jeunes avec Macron vous lancent un appel, ou c'est tout comme avec leur proposition, légaliser le cannabis ou offrir un revenu aux étudiants. On verra ce qu'en pense votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Oui, le président du groupe Les Républicains au Sénat, conseiller de Valérie Pécresse pour l'élection présidentielle. Bruno Retailleau dans le grand invité à notre micro avec Léa. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Que les Français se mêlent de leurs affaires. Parole de Malien dans ce journal. Après l'annonce de l'expulsion de l'ambassadeur de France hier. On s'intéressera aussi à ces abus contre des élèves dans une école juive de région parisienne, aux obus des deux guerres qui explosent toujours dans le Nord, et à la Joconde des antiquités égyptiennes du Louvre, le scribe accroupi prêté pendant un an au Louvre-Lens.
France Inter.
C'est un moment où tout peut basculer, l'un de ces moments critiques dans la vie d'une femme victime de violences conjugales, celui où son ex-conjoint sort de prison. Synonyme de récidive ou de représailles, parfois certaines en sont mortes, comme Bouchra Bouali en décembre dernier à Épinay-sur-Seine, poignardée devant chez elle par son mari qui venait d'être libéré, elle ne le savait pas, elle n'avait pas son téléphone, grave danger sur elle. À partir d'aujourd'hui, les femmes sauront, la justice devra les avertir, à un décret entre en vigueur, et si ça n'est pas la panacée, c'est la moindre des choses pour ces femmes qui vivent dans la crainte, Mathilde Dehimy.
Elle a appris la libération de son ex-conjoint par un simple coup de fil.
C'est tout simplement lui qui m'a contacté via les réseaux en m'envoyant une photo et en me disant « ben coucou, je suis dehors ».
Il vient de passer 6 mois en détention pour violence sur Alison qui s'enfuit de nouveau.
Donc là, ben, branle-bas de combat, obligé de prendre les enfants, de partir dormir chez mes parents et de couper avec tout le monde en fait. Il y a tout qui revient parce qu'on commence un peu à reprendre confiance, c'est-à-dire à être un peu plus sereine quand on sort, à revivre tout simplement. Et là, bah, tout est redevenu en fait comme avant, le stress, l'angoisse, les cauchemars, l'insomnie.
6 mois de cauchemars et d'agressions. Son ex-conjoint est de nouveau incarcéré depuis septembre pour harcèlement, violation de domicile et viol. Placé en détention provisoire, il peut faire régulièrement une demande de remise en liberté. Alison espère que la prochaine fois, elle sera prévenue de sa sortie par une personne dédiée.
Ne pas être prévenue, c'est vous mettre dans la fosse aux lions. Tout ça, c'est un travail à faire en amont. Il ne faut pas prévenir la victime en disant « il sort demain » ou « il est sorti hier » avec des mesures d'accompagnement déjà psychologiques, parce que c'est un extrême choc pour les victimes. Et puis de mettre en place des mesures comme le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement.
Elle a obtenu un téléphone grave danger après 4 mois d'attente, faute d'appareil suffisant dans son département.
Et depuis le début de l'année, depuis un mois donc, 10 femmes ont été tuées par leur conjoint ou par leur ex et l'on recherche toujours le policier soupçonné d'avoir étranglé sa compagne en fin de semaine dernière à Paris.
Il est 8h04, Florence, compte-t-il à répondre aux accusations portées contre leur groupe?
Le nouveau patron d'Orpea et son directeur France se fendent aujourd'hui d'une lettre aux familles dans une page payante achetée dans la presse pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans les témoignages de mauvais traitements infligés à leurs pensionnaires et qu'ils feront toute la lumière sur ces accusations. Voilà sans doute ce qu'ils répondront à Brigitte Bourguignon, la ministre qui les convoque ce matin et qui vient d'annoncer sur France Inter une double enquête administrative et financière. Orpea et ses EHPAD privés, comme la moitié des établissements de France. Les autres sont publics et on peut en rester là. C'est le choix qu'a fait le département des Landes à Nordenstein. Décision prise dans les années 80. Les EHPAD privés n'y ont pas droit de cité.
Dans le département, le souvenir d'Henri Emmanuelli reste vivace. Et quand il s'agit de voter le budget, ses paroles sont souvent citées par l'actuel président du conseil départemental, Xavier Fortinon.
Il n'est pas question pour nous que les personnes qui sont hébergées financent les dividendes des actionnaires de ces grands groupes. C'est quand même particulier que la vieillesse soit devenue une marchandise.
Aucun agrément n'est donc accordé aux EHPAD privés lucratifs, mais c'est aussi parce que les Landes peuvent se le permettre, concède Xavier Fortinon. Moins de bénéficiaires du RSA que le reste de la France et plus de recettes de droits de mutation. Pour d'autres départements, c'est un choix plus difficile financièrement.
Quand vous avez un investisseur privé qui vous dit « ne vous occupez de rien, je vais mettre tant de millions d'euros sur la table », bon, il y a certains départements qui se disent « c'est autant de moins que j'aurai à y mettre hein. ».
Avec un taux d'encadrement 30% plus élevé qu'ailleurs et un prix mensuel 300 euros plus bas, l'argument peut aussi faire mouche quand il s'agit de recrutement, note Mathieu Henry. Il dirige deux EHPAD publics dans les Landes.
C'est quelque chose qu'on présente régulièrement aux candidats que l'on reçoit pour leur dire « attention, nous sommes que des établissements publics, donc vous aurez les mêmes problématiques de recrutement, mais aussi parfois les mêmes avantages, parce que du coup, on s'inscrit dans cette logique de monter en puissance dans la carrière, de pouvoir accompagner au mieux les agents dans un bassin de vie. C'est aussi ça notre volonté. »
Autre effet de cette politique, toutes les places d'EHPAD dans les Landes sont éligibles à l'aide sociale à l'hébergement.
La hausse des tarifs au péage, les 4% d'augmentation de l'électricité, on parle chiffres ce 1er février, avec le taux du livret A aussi, qui n'a fait que baisser depuis 10 ans, tombé à 0,5%. Il repasse aujourd'hui à 1% de rémunération. Comparé à l'inflation, c'est faible. Philippe Père, les 55 millions de Français qui l'ont choisi vont continuer à ne rien y gagner.
Ce 1% de rémunération n'est pas de nature à faire changer d'avis. Simon, il est venu déposer un chèque à la banque.
Ça ne représente rien, parce que compte tenu de l'inflation, en fait, je perds des sous en ayant de l'argent sur mon compte épargne. Donc ça servirait s'il était un peu plus rémunérateur.
Même constat pour Joël et Dominique, pour qui le livret A, même à 1%, appartient au passé.
Ça rapporte pas assez par rapport ou à l'immobilier, ou par rapport aux assurances vie ou aux autres placements. Même la petite augmentation qu'ils vont nous faire, non. J'ai plus, terminé. Mais je fais partie d'une génération qui était livrée A, hein, par contre. Hein. Moi, mon premier livret A, il date de 1970.
Ça va rien changer du tout. Mais bon, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans le sens inverse, va-t-on dire. Mais sinon, ça change rien.
3% de rémunération, c'est quasiment ce qui aurait été nécessaire pour compenser l'inflation, explique l'économiste Philippe Crevel. Il est directeur du Cercle de l'épargne.
Il faudrait que le taux du livret A soit supérieur à 2%. Pour qu'il y ait réellement, on va dire, un rendement positif sur ce type de placement. En deçà, on est en rendement réel négatif, donc on ne gagne pas l'argent avec le livret A, on continue d'en perdre, même si ce sera un peu moins à partir donc du 1er février.
Selon la Banque de France, 15 millions de Français pourraient, sous conditions de ressources, se tourner vers le livret d'épargne populaire. Son taux passe aujourd'hui à 2,2%.
Une banque des jeunes avec des prêts garantis par l'État, proposition signée Valérie Pécresse. Pour financer ses études ou créer une entreprise, c'est la banque du droit à l'échec. Pour la candidate LR à la présidentielle, elle ne se remboursera que si le jeune gagne un certain niveau de salaire. Taxer l'héritage reçu tout au long de la vie et prêter 50 000 euros à ceux qui n'en ont pas. Légaliser le cannabis et étendre le pass culture aux collégiens. Ça, c'est le programme des jeunes avec Macron. Une quinzaine de propositions en forme de contribution pour la présidentielle et d'appel du pied aux électeurs de gauche déboussolés par la primaire populaire. Simon Le Baron.
Il faut voir cet ancien du PS éclater de rire en découvrant les propositions. Quel ramassis de gauchistes.
Si vous avez envie d'y mettre des étiquettes, vous pouvez.
Ni de droite, ni de gauche, répond le président des jeunes avec Macron, Ambroise Méjean.
On ne parle pas à un électorat ou à un autre, ça c'est dépassé, c'est pas ce qui nous intéresse.
Pourtant, les marqueurs sociaux et sociétaux sautent aux yeux. Légalisation du cannabis, revenus étudiants, aide à la transition écologique, près de 50 000 euros pour ceux qui n'ont pas d'héritage, facilitation des démarches à l'état civil pour les transsexuels. De quoi séduire les sociodémocrates et les écolos perdus. La porte-parole des jeunes macronistes, Clémentine Dupuis, ne dit pas non.
Ah mais c'est important de parler à tous les électeurs. Alors oui, évidemment, quand je vois là au lendemain de la primaire populaire, c'est vrai que moi, ancienne de gauche, ça me fait un peu bizarre. Et je pense que oui, en effet, ils sont déboussolés, mais je pense que beaucoup se retrouveront dans les propositions qu'on fait.
Et qu'on croirait tout droit sorti du mouvement des jeunes socialistes, s'amuse encore un marcheur historique. La jambe gauche de la Macronie veut peser dans le débat. Le président la laisse faire, voire l'encourage, confie un communicant. Il sait qu'elle parle à des électeurs dont il aura besoin pour l'emporter.
Au rayon des propositions, enfin, Marine Le Pen promet de débloquer 7,5 milliards d'euros pour la police et la justice si elle est élue présidente, attendue comme d'autres candidat demain au congrès du syndicat de policiers Alliance.
France Inter, 8h10, des soldats français au Mali, Florence, mais jusqu'à quand?
Question ce matin après l'annonce de l'expulsion de l'ambassadeur de France. Il a 3 jours pour faire ses bagages et quitter Bamako sur ordre des militaires de la junte au pouvoir qui accusent la France de colonialisme après les propos des ministres Le Drian et Parly contre leur régime. Coup de semonce bien vu dans la capitale malienne, Kaourou Magassa.
Dans les rues de Bamako, tout s'accorde à dire que les divergences entre les gouvernements français et maliens n'auraient jamais dû mener à l'expulsion d'un ambassadeur. Pourtant, cette décision rarissime est saluée tant les relations entre Bamako et Paris se sont détériorées ces derniers mois.
Il faut que la France comprenne que le Mali est un pays souverain. Donc à chaque fois, il lance des propos qui remettent en cause notre souveraineté, comme si le Mali était une propriété privée de la France. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre destin en main.
Ce week-end, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a qualifié la junte au pouvoir au Mali d'illégitime et d'irresponsable suite à sa demande de retrait du contingent danois de la force Takuba. Des propos banals dans le cadre politique français, mais qui sont perçus ici comme des insultes et qualifiés d'infantilisants.
Nous sommes un État comme la France. Nous ne demandons rien d'autre que d'être respectés, c'est tout. Nous voulons être respectés par la France. Et que si la France ne se sent pas la bienvenue au Mali aujourd'hui avec ses autorités-là, mais c'est très simple qu'elle retire ses soldats de ce pays.
Même si les partisans d'un départ de la France sont nombreux, un retrait brutal de l'opération Barkhane inquiète une bonne partie de l'opinion. Sur le terrain, les opérations militaires sont toujours en cours, notamment dans le nord-est du pays, principale base arrière du groupe État islamique au Grand Sahara. Kérou Magassa depuis Bamako pour France Inter.
Autre dossier brûlant, la France y est moins impliquée, c'est l'Ukraine. De nouveau, les chefs de la diplomatie russe et américaine vont se parler au téléphone aujourd'hui. Hier, Londres et Washington ont précisé leur menace de sanctions en cas d'attaque de la Russie, taper les proches du Kremlin au portefeuille en interdisant à des oligarques de se rendre au Royaume-Uni ou en gelant leurs avoirs, par exemple. Ils étaient là pour étudier la Torah et le Talmud, les textes fondateurs du judaïsme. Mais que se passait-il derrière les murs de cette yeshiva, cette école de Bussière en Seine-et-Marne? Hier, 16 responsables de l'établissement ont été placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir maltraité leurs élèves physiquement et psychologiquement. Enquête ouverte en juillet dernier, Ariane Grissel, après un signalement à la Miviludes, la mission de lutte contre les dérives sectaires.
Sur son site internet, cette école talmudique se présente comme offrant des conditions idylliques pour étudier à l'écart du tumulte de la vie parisienne. En réalité, le bâtiment et son parc semblent avoir surtout servi à isoler la soixantaine d'élèves, des mineurs de 12 ans ou plus et des jeunes majeurs, beaucoup d'Américains et d'Israéliens qui ne parlent pas français. Les responsables sont soupçonnés de les avoir maintenus enfermés dans l'établissement, allant jusqu'à leur confisquer leurs papiers d'identité. En juillet dernier, l'un d'eux parvient tout de même à s'enfuir et se réfugie à l'ambassade américaine. Son récit vient s'ajouter au signalement de la Miviludes. D'autres élèves fuguent dans la foulée. Ils sont également entendus, ainsi que des personnes ayant fréquenté l'établissement dans le passé. Tous témoignent de maltraitance physique et de privation de soins. Le tout dans un cadre qui semble lui aussi très loin des conditions idylliques vantées sur Internet. L'enquête confiée aux gendarmes de la section de recherche de Paris a également révélé que le bâtiment où logeaient les mineurs faisait l'objet d'un arrêté de fermeture au public à cause de son état de délabrement.
Des monceaux de déchets qui s'accumulent dans les rues de Marseille et qui s'envolent avec le vent violent en ce moment quand ils ne sont pas brûlés par les riverains. La troisième grève des éboueurs marseillais en 4 mois pose de nouveau des problèmes de santé publique et d'environnement. Le maire va donc réquisitionner des camions privés dès aujourd'hui pour ramasser ce qui ne l'est plus. Attention, ça n'est pas parce qu'ils sont là depuis des décennies qu'ils sont inoffensifs. Les obus des deux guerres qui jonchent la terre des Hauts-de-France font toujours des morts. Un octogénaire ce week-end près d'Arras, qui avait voulu ouvrir l'engin. Et c'est encore trop fréquent dans la région, Béatrice Duguay.
Au Translois, les champs de pommes de terre ont remplacé les champs de bataille.
Tous les ans, on a une deuxième récolte en plus des pommes de terre, c'est les obus, les grenades, toutes sortes d'engins qui ont été tirés au moment de la guerre 14-18.
Surtout 1916, précise Xavier Pouillaude, cet agriculteur de la commune déterre une centaine d'engins chaque année.
On a l'habitude, mais c'est vrai qu'il y a un danger, c'est clair.
Obus pleins parfois ou grenades mélangées aux patates.
Ouais, mais là c'est franchement j'étais.
Daniel Doyy, le maire du Translois, est encore sous le choc de la mort de son ancien agent communal qui a semble-t-il tenté d'ouvrir à la disqueuse ce café. Cet obus en tête, il démontait ses munitions pour les revendre.
On a découvert ça avec les démineurs, il avait pas mal de cafus chez lui.
3 tonnes dans la cour, les démineurs ont pesé. L'accident de samedi a du coup marqué certains administrés qui appellent Daniel Doyy.
Ah bah tiens, j'ai un obus chez moi depuis 2 jours, oui, encore ce matin d'ailleurs.
Pourtant les démineurs luttent contre la banalité de ces découvertes. Les plus difficiles à convaincre ne sont pas les jeunes, explique Michel Collin, chef de centre du déminage d'Arras.
Des fois c'est des enfants qui ramènent ça de balade dans la campagne, ils ramènent ça au domicile. Et donc après, ils font des recherches sur Internet et ils voient que c'est dangereux, donc ils déclenchent quoi. Mais effectivement, les personnes d'un certain âge qui ont été confrontées à ce genre d'engin toute leur vie, ils banalisent vraiment le danger.
Il faut informer sans relâche, dit le maire, puisque...
Vivre avec, on est obligé.
Et pour des années encore.
Béatrice Duguay, pas de quart de finale de la Coupe de France pour le PSG. Les Parisiens, double tenant du titre, ont perdu au tir au but hier soir face à Nice après un match nul 0-0. Nice qui recevra l'OM en quart quand les deux petits poussets de la compétition Versailles et Bergerac se retrouveront l'un contre l'autre. Enfin, c'est une star qui vient de quitter Paris. Une icône égyptienne connue sous le nom de Scribe accroupi en tournée à Lens. Pour plusieurs mois, cette pièce phare que le musée du Louvre prête exceptionnellement à son petit frère, le Louvre-Lens, qui fête ses 10 ans, Isabelle Pesquier.
Le scribe accroupi avec ses yeux de cristal qui nous transpercent depuis 4500 ans, c'est la Joconde des antiquités égyptiennes du Louvre et il ne voyage jamais, enfin presque jamais. Mais là, exceptionnellement, il vient à Lens pour être au cœur d'une grande exposition sur Champollion. Marie Lavandier, la directrice du Louvre-Lens, ne cache pas sa joie d'accueillir pendant un an cette icône égyptienne.
C'est d'autant plus exceptionnel que le scribe accroupi, à part pour une exposition en 1999 au Grand Palais, il n'a jamais quitté le Louvre. Et puis surtout, c'est un prêt exceptionnel parce que c'est une année exceptionnelle. D'abord, c'est les 10 ans du Louvre-Lens, qui reste un Paris muséal toujours aussi innovant à l'échelle mondiale. Et puis, c'est aussi l'année Champollion, l'année bicentenaire de la découverte du mystère des hiéroglyphes par ce grand savant français auquel l'exposition nationale sera au Louvre-Lens à partir de la fin du mois de septembre. Elle ouvrira pour l'anniversaire précis de la lettre écrite par Champollion où il indique avoir enfin trouvé la solution.
Demain, le scribe accroupi va avoir une surprise car ce sont des collégiens de Liévin qui vont le présenter au président de la République. Ce seront eux les guides pour la visite de l'étonnante Galerie du Temps. Impliquer tous les publics dans la vie du musée, c'est la réussite de l'utopie du Louvre-Lens.
Allez voir le scribe à partir de jeudi à Lens. Vous avez un an, Nicolas, pour aller regarder ses yeux perçants là-bas.
Merci Florence Paracuelos. La météo Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Et c'est un temps maussade dès ce matin, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, on garde des résidus de la perturbation d'hier sur le nord-est et le centre-est avec quelques flocons même ce matin, alors qu'une nouvelle perturbation est rentrée par le nord et apporte un redoux, mais des petites pluies éparses et de la neige qui tombe aussi sur le massif central, les Vosges, le Jura, et des pluies verglaçantes du Berry au Limousin, prudence, alors que sur les régions atlantiques, vous aurez encore des éclaircies matinales. Et dans le sud, vous allez voir le soleil se lever, mais toujours sous un vent soufflant jusqu'à 110 km par heure. Au plus bas, il fait moins 3 à la Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher et en Corrèze ou en Haute-Loire. Moins 2 en Lozère, contraste avec les 12 à Bastia, 10 à Belle-Île et 11 à Menton.
Et peu de changements cet après-midi.
Oui, le ciel va se couvrir quand même de la Vendée au Pays Basque, aux Cévennes, avec de la neige sur le massif central, le Jura, les Vosges, et toujours du soleil autour de la Méditerranée sous un vent très fort, alors que le reste du pays restera sous un ciel gris et des pluies assez faibles, et un mercure aussi contrasté, alors qu'on va plafonner 3 à Mulhouse, 4 à Lens, Le Saunier et Lyon, 5 à Aurillac. Vous aurez 9 à Paris et Toulouse, 11 à Lille comme à Bordeaux ou Marseille, 12 à Brest, 14 à Narbonne, jusqu'à 16 à Bastia et même 17 à Menton.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. Vous écoutez France Inter, il est 8h18.